un berger, un jeune berger, huitième fils de la famille d'Isaïe. Et lorsque le roi, le prophète Samuel est allé dans la famille d'Isaïe pour oindre un roi, ils ont fait défiler tous les frères de Saül, les sept frères aînés de David plutôt. Ils ont fait défiler les sept frères aînés de David, et puis l'Éternel n'étant pas avec aucun d'entre eux, le prophète va demander à Isaïe, est-ce que tu n'as pas un autre fils? Peut-être que c'est lui. Et Isaïe va lui dire, oui, j'en ai un qui est dans les champs en train de paître les brebis. Alors, il va le faire venir, arriver à la maison, et effectivement, le prophète va oindre David comme éventuel futur roi. Et on sait que ça a pris un certain temps, notamment une victoire contre un géant qu'on appelle Goliath, qui venait depuis une quarantaine de jours mettre au défi Israël pour obtenir un combattant, en disant, s'il y a un homme parmi vous qui se lève contre moi et qui me bat, à ce moment-là, je serai, moi et mon peuple, les Philistins, nous serons vos serviteurs. Mais si moi je bats votre soldat, votre guerrier, votre combattant, bien à ce moment-là, vous nous serez soumis. Tout le monde a peur, tous les soldats vont se cacher à la vue simple de Goliath qui se présente deux fois par jour pour mettre au défi Israël. Et David, qui, envoyé par son père porter du fromage à ses frères qui sont au champ, va se pointer juste au moment où Goliath vient faire une autre de ses vociférations et va choquer David quant au côté hautain, outrageux, outrancier qu'il affiche lorsqu'il vient s'attaquer verbalement à Israël. David va se porter donc volontaire pour combattre Goliath, et lorsqu'il se présente devant Goliath, Goliath le regarde venir avec ses habits de berger, avec son bâton, sa houlette, avec sa gibecière, avec ses cailloux et sa lance, et il va dire plutôt avec ses cailloux et puis son lance-pierre, et il va dire à David, mais suis-je un chien pour que tu viennes te battre avec moi avec ces instruments de berger? Et David lui dit, toi tu viens avec la lance et avec l'épée, moi je viens avec le au nom de l'Éternel, et aujourd'hui il va te livrer entre mes mains. Et c'est effectivement ce qui se passe. David prend un élan, lance une pierre avec sa fronde qui perce le casque de Saül, oui, de Goliath, qui tombe au sol. David lui coupe la tête, et c'est là qu'il commet, ou qu'il connaît plutôt, son premier grand haut fait. Saül va lui donner sa fille comme il l'avait promis, mais Saül va être en guerre contre David pendant un certain nombre de temps, jusqu'à ce que Dieu se détourne effectivement de Saül et qu'il meure au combat, et qu'on place David comme roi en place et lieu de Saül. Une des choses qu'on retient régulièrement de David, c'est qu'on va dire de David qu'il était un homme selon le cœur de l'Éternel. Une expression qui ne revient nulle part ailleurs dans les Écritures, si ce n'est que pour le roi David. Et on le voit à deux occasions principales. Une fois dans l'Ancien Testament, et une fois dans le Nouveau Testament. Dans l'Ancien Testament, ça se trouve dans le chapitre 13 de 1 Samuel. Donc 1 Samuel, chapitre 13 et le verset 14. On pourrait même lire le verset 13 aussi. Donc 1 Samuel 13 et 14 nous disent, Samuel dit à Saül, tu as agi en insensé et tu n'as pas observé le commandement que l'Éternel, ton Dieu, t'avait donné. L'Éternel aurait affermi pour toujours ton règne en Israël, et maintenant ton règne ne durera point. L'Éternel s'est choisi un homme selon son cœur, et l'Éternel l'a destiné à être le chef de son peuple parce que tu n'as pas observé ce que l'Éternel t'avait commandé. Un homme selon son cœur, l'Éternel dit, à propos du prochain roi qui est David, un homme que Dieu a destiné à être chef de son peuple, parce que lui a observé ce que l'Éternel lui avait commandé. La même expression se retrouve par la suite dans Actes, dans le Nouveau Testament. Actes 13, les versets 21 et 22. Le verset 21 nous dit « Ils demandèrent alors un roi, et Dieu leur donna, pendant 40 ans, Saül, fils de Kis, de la tribu de Benjamin. Puis, l'ayant rejeté, il leur suscita pour roi David, auquel il a rendu ce témoignage « J'ai trouvé David, fils d'Isaïe, homme selon mon cœur, qui accomplira toutes mes volontés. » Homme selon mon cœur, qui accomplira toutes mes volontés. Deux expressions similaires, une en hébreu, dans l'Ancien Testament, dans 1 Samuel, l'autre en grec, dans le Nouveau Testament, puisque c'est dans le livre d'Actes. Alors, en hébreu, un homme selon le cœur de l'Éternel, c'est l'expression « Iyish Lebab ».« Iyish Lebab », donc pour ceux qui prennent des notes, le premier mot « Iyish », « I-Y-S-H », le deuxième mot « Lebab », « L-E-B-A-B », « Iyish Lebab », un homme selon le cœur de Dieu. Et si on le traduisait vers un français plus contemporain, ça serait une expression qui dirait « un homme dont le cœur vient de Dieu » ou « dont le cœur lui est similaire ». Un homme dont le cœur vient de Dieu ou dont le cœur lui est similaire. Lebab qui veut dire cœur, nature, pensée, inclinaison, intérieur et consistance. Ça veut donc dire que le cœur qui était en David était un cœur qui venait directement de la pensée même de Dieu ou qui était similaire au cœur de Dieu. Ça veut donc dire que David, dans ses motivations, dans ses inspirations, dans ses désirs, il n'y avait pas de dichotomie entre les désirs de David et les désirs de l'Éternel. En règle générale, bien sûr, parce que David n'a pas été non plus un homme sans faute. Mais ce qu'il avait de particulier, c'est que lorsque David tombait dans l'erreur, dans le péché, il ne tardait pas, lorsqu'il était confronté avec son mal, il ne tardait pas à aller se repentir et à demander pardon à Dieu. L'expression « un homme selon le cœur de l'Éternel » est un peu plus longue en grec. Je vous la récite. « Aner kata ego kardia ».« Aner kata ego kardia ». Donc, ces quatre mots, « aner », « a-n-e-r », qui veut dire « homme »,« être humain » ou « masculin »,« mâle ».« Kata », pour... qui veut dire le mieux, le lieu le plus profond ou caché d'une chose. Le lieu le plus caché d'une chose. Ego, moi, moi-même, et cardia, cœur. En fait, cette expression qui est beaucoup plus poétique en grec qu'en hébreu veut dire un homme créé dans la profondeur du cœur de Dieu. Ça prend un autre cachet. Un homme selon le cœur de Dieu, c'est beau, reluisant pour David puisqu'il est le seul à porter cet énoncé, mais un homme créé dans les profondeurs du cœur de Dieu. C'est comme dans les lieux secrets, dans les choses intimes de Dieu, voilà où David a été créé. Aujourd'hui, on pourrait prendre une panoplie d'histoires de David et choisir plusieurs d'entre elles pour illustrer sa foi, notamment celle qu'on a vue tout à l'heure, lorsque il a accepté, il a décidé d'aller combattre Goliath. On pourrait afficher la foi de David, bien entendu, lorsqu'il a refusé de porter la main sur Saül, qui pourtant le pourchassait, qui était livré à David sur un plateau d'or dans une grotte où David aurait pu assassiner le roi et prendre possession du trône, mais David n'a pas voulu précéder le temps de Dieu et n'a pas voulu manquer du respect nécessaire aux autorités, et David a refusé. Donc le fait d'attendre son temps, d'attendre que Dieu fasse la chose, est une autre illustration de la foi de David. On aurait pu parler aussi de sa repentance après avoir tué, ou fait tuer plutôt, Uri, le mari de Bathsheba, avec qui il a commis l'adultère. Il a volé cette femme à Uri, il a envoyé Uri, qui était un des colonels de David, il l'a envoyé sur le front d'une manière où il ne pouvait échapper à la mort. David, confronté à son péché, aurait pu dire « Ouais, mais je suis roi, je peux me permettre des choses, je peux faire ceci, regardez les autres rois, d'autres ont été pires que moi, Saül a fait bien pire que moi. » Non, David a été repentant, s'est courbé devant Dieu et s'est humilié et a accepté aussi la punition de Dieu. Et dans cela, dans sa soumission à Dieu, dans son obéissance à Dieu, dans sa repentance à Dieu, il affiche aussi sa foi. J'ai décidé de revenir sur un des textes les plus célèbres de David pour voir comment dans ce texte se manifeste sa foi. Et bien entendu, on parle du psaume 23 qui est, sans l'ombre d'un doute, le psaume le plus célèbre que David a écrit. Vous savez que 90% des psaumes ont été écrits par David, certains par Salomon, son fils, d'autres par notamment Moïse et quelques autres personnages, mais la grande majeure partie du livre des psaumes est écrite par le roi David, qui était à la fois un berger, à la fois est devenu un grand guerrier, à la fois est devenu un roi glorieux, mais de surcroît à cela, David était aussi un psalmiste, donc un chanteur, un poète qui s'accompagnait à la harpe. Alors voici ce qu'il nous dit dans le psaume 23. Je sais que la plupart d'entre vous pourriez le réciter, et c'est merveilleux, d'autres peut-être l'entendent pour une première fois ou pour quelques premières fois. Alors voici ce que nous dit le psaume 23. Cantique de David. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice, à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table, en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête, et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. On a souvent étudié ce psaume, et vous l'avez fait avec moi depuis le début de la pandémie, ou depuis le début maintenant, dirons-nous, de nos bénédictions matinales. On l'a fait à quelques reprises, mais j'aimerais reprendre ce psaume dans le paramètre de la foi manifestée par David à travers ce psaume. Alors le premier verset nous dit « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. » L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Le premier point ici, c'est que en raison de sa foi, David acceptait d'abandonner toute sa vie à Dieu. David est une brebis de l'Éternel, mais c'est le genre de brebis. Et c'est le genre de relation qu'on a avec un berger, non pas parce qu'on est né dans le troupeau, mais parce qu'on décide d'adhérer au troupeau de l'Éternel. Donc David décidait d'avoir cette relation avec l'Éternel comme une brebis avec son berger, donc de s'abandonner, d'abandonner toute sa vie à l'Éternel, à son Dieu. Vous savez qu'une brebis ne peut pas vivre sans un berger. Une brebis qui s'égare est appelé à mourir assurément, ne sachant pas le chemin à emprunter, ne pouvant pas se défendre par elle-même, étant au risque d'une culbute ou d'une chute de laquelle elle ne saurait se relever, ne saurait non plus choisir les bonnes herbes pour elle et pourrait s'intoxiquer. Donc, dans cette image que David veut personnifier avec l'Éternel, il dit « Me voici comme une brebis au pied de mon berger. » Donc, le premier point, c'est que David accepte, en raison de sa foi, d'abandonner toute sa vie à Dieu. Mais de surcroît à cela, il dit « Je ne manquerai de rien. » Donc, en raison de sa foi, il lui fait aussi totalement confiance. C'est non seulement un abandon à Dieu, mais c'est aussi une mise de toute son assurance, mise de toute son espérance, de son espoir entre les mains de Dieu. Il peut le faire en raison de la foi qu'il exerce envers Dieu. Le deuxième verset, il me fait reposer dans de verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles. En raison de sa foi, il sait que Dieu va prendre soin de lui. Il me dirige dans de verts pâturages et près des eaux paisibles. Il sait que Dieu va prendre soin de lui. Mais de surcroît à cela, en raison de sa foi, il accepte aussi d'embrasser le parcours, les lieux, le chemin que Dieu aura décidé pour lui. Et il va devenir roi. Il décide des choses sur son peuple, mais lui se présente malgré tout comme une brebis qui se soumet en ayant confiance à celui qui prend soin d'elle, qui se soumet aussi aux différents lieux, aux différents stages, aux différentes étapes que Dieu choisit dans le parcours sur lequel le berger, le bon berger, mène sa brebis. Le verset 3, « Il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. » Il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. En raison de sa foi, David savait que le Seigneur guérirait ses blessures du passé. Il restaure mon âme, c'est non seulement de prendre soin, mais de rétablir David. Et on sait que assurément David a été marqué par son passé. Une famille de laquelle il est pratiquement rejeté, pratiquement abandonné, oublié. Lorsqu'on pense à des guerriers, lorsqu'on pense à des rois, on pense à d'autres personnes qu'à David. On confie à David les plus petites tâches, les plus viles tâches qui sont données dans une famille. Et David, donc, est au champ alors que ses frères se font examiner sous tous les angles pour voir s'il ne pourrait pas être roi. Mais jamais on ne pense à David. Donc, assurément, David arrive à l'Éternel et arrive au règne avec des blessures du passé, avec des abandons, des rejets, des douleurs du passé que Dieu va être capable de penser. Alors, premièrement, il guérit mes blessures. Deuxièmement, je me laisse guider par Dieu. Le verset dit, il me conduit dans les sentiers de la justice. Ça veut donc dire que je fais confiance à Dieu, qu'il sait par où je dois passer et par quel chemin je dois avancer. Il connaît le rythme dans lequel je dois avancer. Il me fait arrêter à certains endroits. Il me fait avancer à d'autres. Il reprend le chemin le lendemain matin. Il m'arrête le soir venu. Il me permet peut-être de faire des pauses durant la journée. Il guide mon chemin. Alors, par la foi, David a mené ce genre de vie où il se laissait guider par Dieu. Mais il dit, il me conduit dans les sentiers de la justice. Ça veut donc dire que par la foi, ou en raison de sa foi, David décidait aussi de vivre dans l'intégrité ou avec intégrité. Et voilà pourquoi lorsque David va pécher et qu'il va être confronté avec son péché, il va se repentir. Il ne va même pas négocier avec Dieu pour que la punition, pour que le châtiment soit léger, il va l'accepter en sachant que Dieu est juste et ce qu'il fait est bon. Donc David cherchait à marcher avec intégrité devant Dieu. Il dit, mais je fais cela, il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Dieu va me faire marcher dans les choses qui sont justes, qui sont intègres, et je vais accepter cette justice et cette intégrité à cause de son nom. David, par sa foi, en raison de sa foi, veille à honorer le nom de l'Éternel. Parce qu'il avait la foi, il cherchait à mener une vie qui serait honorable, qui serait louable devant Dieu. Non seulement que Dieu y prenne plaisir, mais que son peuple, qui était là à regarder la démarche, la conduite et le parcours de David, puisse aussi trouver en lui, en le roi emblématique, un modèle pour leur vie personnelle. « Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. » Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. La première chose, c'est à cause de sa foi, en raison de sa foi, David décidait de ne pas céder sous aucun prétexte à la peur. Parce que tu es avec moi, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. David décidait de ne pas vivre sous la menace de Saül, sous la menace des Philistins, sous la menace des ennemis. David retournait constamment à la protection, à l'assurance, aux promesses que Dieu avait émises à son sujet. Donc, en raison de ma foi, je ne cède à aucune peur et je ne vis pas sous la terreur. En raison de ma foi, je vis aussi sous la protection de l'Éternel. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. C'est parce que tu es là que je ne crains aucun mal, parce que tu as ta houlette et ton bâton. Ta houlette qui sert pour aller frapper les fauves qui pourraient être lancés contre moi, qui sert à aller éloigner les ennemis qui pourraient vouloir s'attaquer à moi en tant que membre de troupeau, mais de surcroît à cela, le bâton aussi qui guide mes pas. Lorsque j'arrive dans un secteur peut-être plus périlleux du parcours, ce bâton qui guide mon chemin, qui me permet de ne pas dévier ou qui m'évite de dévier à droite ou à gauche. Et c'est là où David disait que par la foi, donc, il ne céderait à aucune peur, que par la foi, il vivrait sous la protection de son berger et que par la foi, en raison de sa foi, il se soumettrait aussi à la discipline, au parcours, à la direction, aux directives de son Seigneur. Avant-dernier verset, le verset 5, « Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. » Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. En raison de sa foi, David décide de se réjouir, même sous attaque. Tu dresses une table pour moi en face de mes adversaires. Même étant attaqué de toutes parts, David va avoir ce cœur qui est tourné vers l'Éternel, qui veut servir l'Éternel en le louant, en le magnifiant, en élevant son nom. Donc, en raison de sa foi, il était capable de se réjouir, même lorsqu'il était sous pression. Combien d'entre nous, lorsqu'on passe par des moments difficiles, on arrête de chanter, on arrête de célébrer. Et vous comprendrez, pour ceux qui ont reçu ce don particulier de la musique, du chant, de la louange, mais ça s'applique aussi avec, pour n'importe qui d'autre, il y a une délivrance qui vient dans la louange. La Bible nous dit que Dieu siège dans la louange de son peuple. Alors, même si de façon humaine et charnelle, quand je suis déprimé, quand les attaques viennent, quand les pressions viennent, même si le réflexe qu'on dirait naturel, mais je dirais plutôt charnel, serait de se taire, de se renfrogner, de se refermer sur soi-même, David, à la place, s'extériorisait dans la louange, dans l'adoration. Il y a une délivrance, il y a une puissance de laquelle ou desquelles on se prive si on se tait, si on tait notre louange et notre adoration. Je dis régulièrement à des musiciens, à des chantres, à des gens qui ont ce don de louange, ou plutôt ce ministère de louange, de ne pas se taire. Parce que quand ils se taisent, ils se privent eux-mêmes d'un moyen que Dieu leur a donné de savourer, de vivre les délivrances et la puissance libératrice qu'apporte l'adoration et la louange. Donc David, en raison de sa foi, est capable de se réjouir même sous attaque. En raison de sa foi, David sait qu'il est accepté et honoré par Dieu. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Ça veut donc dire que David, peu importe les circonstances dans lesquelles il passait, il savait qu'il était apprécié, qu'il était désiré, qu'il était accepté par Dieu. Ce psaume-là était bon pour David, mais il est tout à fait aussi approprié pour toi et pour moi. Et parfois, on regarde notre existence et on se dit, mais je ne mérite pas l'attention de Dieu. Je ne mérite pas la grâce de Dieu. Je ne mérite pas la bénédiction de Dieu. Et assurément, aucun d'entre nous, par nos propres efforts, par notre propre nature, nous le méritons. Mais les grâces, les bénédictions, la miséricorde de Dieu se reçoit non pas par le mérite, mais se reçoit par grâce. Voilà pourquoi David pouvait, malgré ses manquements, malgré ses erreurs, malgré le fait qu'il était le plus jeune dans sa famille, malgré le fait qu'on ne le voyait pas comme étant un potentiel roi, pouvait recevoir et embrasser la grâce de Dieu parce qu'il savait que ça ne venait pas du mérite, mais ça venait de l'amour, de la passion que Dieu a pour ses enfants. Alors, par la foi, je peux aussi accepter d'être reçu, d'être embrassé, d'être aimé par Dieu. Enfin, par la foi, il proclame aussi sa bénédiction. Même dans les moments difficiles, lorsqu'il était en train de passer à travers les vallées sombres, il était capable de dire, « Je sais que la vallée arrive à terme. Je sais que je vais la traverser. » Il disait, « Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort. » Il ne disait pas, « Quand je réside dans la vallée de l'ombre de la mort. » Il disait qu'il allait passer à travers. Et à peine passer à travers, et à peine traverser cette vallée, voilà qu'il se retrouve devant une table qui a été préparée par Dieu pour lui. Donc, en raison de notre foi, nous devons proclamer la bénédiction de Dieu. Même lorsque nous sommes dans la vallée sombre, la vallée opaque, la vallée ténébreuse, la vallée difficile et douloureuse et effrayante, nous sommes capables, en raison de notre foi, à l'instar de David, de proclamer sa bénédiction. Et David terminait en disant, « Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. » En raison de sa foi, David ne redoutait pas l'avenir. Ce cantique qui dit « Oui, Jésus vit, il n'est plus sur la croix. Oui, Jésus vit, il n'est plus sur la croix. » Et le cantique va dire à un moment donné que par cette victoire de Jésus à la croix, je peux affronter l'avenir, je peux affronter le futur. Je ne crains pas l'avenir, je n'ai pas peur de demain. David ne redoutait pas l'avenir parce qu'il savait que cet avenir, ce futur, n'était pas entre les mains de la brebis qu'il était, mais était entre les mains du berger que l'Éternel est, reste et demeure. Donc, en raison de ma foi, je ne redoute pas l'avenir. Oui, tous les jours, le bonheur et la grâce m'accompagneront. Le bonheur, la grâce, ce pardon qui vient de Dieu. Donc, David était capable de proclamer, en raison de sa foi, que la grâce de Dieu était manifeste, efficace, même pour lui. Et je le proclame dans ta vie, si tu n'es pas capable de le dire aujourd'hui, je le proclame dans ta vie, la grâce de Dieu est tout à fait efficace, tout à fait adéquate pour pardonner ton péché. Donc David était capable de proclamer le pardon de son péché. Lorsqu'il a péché, lorsqu'il est tombé, lorsqu'il s'est repenti, il savait que la grâce de Dieu se manifesterait et que le pardon de Dieu, une fois le jugement accompli, une fois le châtiment accompli, que ce châtiment ne serait pas éternel, mais que ce châtiment venait à un terme, venait à un arrêt, et qu'une fois la sanction dûment reçue et dûment donnée, il savait que le pardon était la suite, la prochaine étape, était le prochain pas qui allait être franchi. Alors David savait par la foi qu'il était pardonné et il pouvait proclamer son pardon. Et enfin, par la foi, David proclamait son salut, ce salut qui se manifeste par le fait que David pouvait demeurer jusqu'à la fin de ses jours, qu'il pouvait demeurer pour toujours dans la maison de l'Éternel, en présence de Dieu, accepté par Dieu, choyé par Dieu, embrassé par la présence de Dieu. C'était par la foi que David était capable de proclamer ces choses-là. Alors, en raison de sa foi, David abandonnait toute sa vie entre les mains de Dieu. En raison de sa foi, il lui faisait totalement confiance. En raison de sa foi, il savait que Dieu prenait soin de lui. En raison de sa foi, il embrassait les lieux, le parcours, le chemin à travers lequel le Seigneur le menait. En raison de sa foi, il savait que ses blessures du passé seraient guéries. En raison de sa foi, il se laissait guider par Dieu. En raison de sa foi, il décidait de vivre avec intégrité devant Dieu. En raison de sa foi, il cherchait à veiller, à honorer le nom de Dieu. En raison de sa foi, il ne cédait à aucune peur et à aucune terreur. En raison de sa foi, il vivrait sous la protection de Dieu pour le restant de son existence. En raison de sa foi, il se soumettait aussi aux directives, à la direction, à la discipline de Dieu dans sa vie. En raison de sa foi, David se réjouissait même sous attaque. En raison de sa foi, David se savait accepté, honoré et pris en compte par Dieu. En raison de sa foi, David était capable de proclamer la bénédiction de Dieu, même dans les moments difficiles. En raison de sa foi, enfin, David ne redoutait pas l'avenir. En raison de sa foi, il était capable de proclamer le pardon de ses fautes. Et en raison de sa foi, il était capable de proclamer la véracité de son salut. Un homme selon le cœur de l'Éternel, un homme dont le cœur venait de Dieu ou dont le cœur était similaire à celui de Dieu, un homme selon le cœur de l'Éternel, un homme créé dans la profondeur, dans l'intimité du cœur de Dieu, dans la présence intime et ineffable de Dieu. Et voilà ce qui termine notre bénédiction matinale pour aujourd'hui. Alors Seigneur, j'appelle ta bénédiction sur mon frère et sur ma sœur. J'appelle ta grâce. J'appelle la foi à entrer en action dans leur vie afin que eux, chacun d'eux, comme moi-même, nous puissions devenir des hommes, des femmes selon le cœur de l'Éternel. Merci pour ce personnage de David, ce célèbre homme de Dieu dans ta parole, mais qui est encore un exemple pour nous tous aujourd'hui. J'appelle ta bénédiction sur mon frère, sur ma sœur, d'agréables surprises pour cette journée et en toute chose que ton nom, ce nom seul par lequel nous puissions être sauvés, ce nom de Jésus, soit proclamé dans nos vies. Nous t'avons prié dans ce précieux nom. Amen. Alors voilà ce que nous avions pour ce matin. J'espère être parmi vous ce soir. Il va peut-être y avoir un conflit d'horaire dans mon cas, mais je vous aviserai en temps et lieu si je suis bloqué quelque part. Voilà, c'était tout ce qu'on avait pour aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse et puis à ce soir, sinon ce sera mardi matin pour la prochaine bénédiction matinale. Que Dieu vous bénisse. Bonne journée à tous.